15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours en direct de 15h à 16h. Tous les jours, il sort de consultation et me rejoint dans ce studio pour répondre à vos questions. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à un sujet dont on parle de plus en plus, les pervers narcissiques. Qui sont-ils vraiment? Quelles sont leurs méthodes pour établir leur emprise sur leurs victimes? Et surtout bien sûr, comment leur réchapper? Toutes les réponses à ces questions, ce sera avec notre invitée Hélène Vecchiali. Elle est psychanalyste et l'auteur du livre « Maître les pervers, échec et maths » chez Marabout. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un vaccin contre le paludisme, particulièrement intéressant chez les femmes enceintes. Ensuite, dans notre chronique « Les mots du quotidien », on va parler du cancer de l'œil. Et oui, ça existe, c'est peu connu, mais 600 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, souvent trop tard. On fera le point notamment sur les signes qui doivent alerter. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question d'éducation sexuelle.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Corinne.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Depuis quelques temps, j'ai très mal à mon épaule. Donc, je suis allée consulter mon médecin qui m'a diagnostiqué une capsulite et que je devais faire des infiltrations. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette douleur et sur les infiltrations? Merci beaucoup.
Alors Jimmy, avant de parler de la capsulite en particulier, je crois qu'il y a beaucoup de causes qui peuvent expliquer une épaule douloureuse. Hein.
Oui, d'ailleurs la capsulite rétractile, c'est un peu un diagnostic d'élimination. Une fois qu'on a fait des examens et qu'on ne retrouve pas grand-chose, on peut parler de capsulite. Néanmoins, les douleurs de l'épaule sont un motif de très fréquente consultation, surtout après 50 ans. L'épaule, c'est une articulation qui est très mobile, qu'on sollicite énormément, mais qui s'use assez facilement.
C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais dans toutes les positions finalement du quotidien, quasiment on sollicite son épaule.
Exactement,
fait,
hein, et ouais. Donc c'est une zone avec de nombreuses contraintes, et donc on peut avoir à travers des traumatismes répétés, des tendinites, vous pouvez avoir de l'arthrose qui va s'installer, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une tendinopathie calcifiante, c'est-à-dire un petit cristaux, un petit calcul qui se forme dans l'épaule, qui fait très mal. Vous pouvez avoir des signes indirects, comme par exemple une douleur de la vésicule biliaire donne une douleur de l'épaule.
Ah oui, d'accord.
Les signes d'infarctus du myocarde donnent à la fois une douleur thoracique, mais une douleur aussi de l'épaule. Donc toute douleur de l'épaule n'est absolument pas une capsulite rétractile.
Néanmoins, il faut consulter pour vérifier ce que c'est. Alors justement, la capsulite rétractile, c'est comme ça que vous dites?
Exactement.
C'est quoi précisément?
Alors, donc la capsulite rétractile, c'est la capsule de l'épaule. C'est une membrane qui entoure l'articulation de l'épaule.
C'est
une enveloppe virtuelle, exactement, qui se rétracte et qui s'épaissit. Et lorsqu'elle s'épaissit et qu'elle se rétracte, elle entraîne des douleurs et un enraidissement de l'épaule. Et ça évolue en trois phases. La première phase, c'est une phase de douleur. Vous avez des douleurs qui sont lancinantes, quelles que soient les positions, qui vous réveillent la nuit et pour lesquelles les traitements ne marchent pas. On donne aux gens des anti-inflammatoires, mais ça ne s'améliore pas. Suivi d'une phase de raideur qui dure plusieurs mois, où vous avez moins mal, mais vous avez une mobilité qui est plus réduite.
D'accord.
Et puis la troisième phase, qui dure jusqu'à 2 ans, où vous allez récupérer sans séquelles lorsque la capsulite est dite idiopathique, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé de cause. Il y a certaines causes qui peuvent entraîner la capsulite, un diabète, le fait d'avoir fait un accident vasculaire cérébral peut en donner une capsulite. Donc, de nombreux facteurs, mais dans l'immense majorité des cas, on guérit dans les 2 ans.
Ouais, 2 ans, c'est long quand même. Alors, est-ce que c'est fréquent, cette capsulite? Il y a des personnes qui sont plus à risque, peut-être?
Oui, c'est fréquent, mais la majorité des patients, 80%, sont plutôt des femmes.
Ah oui.
Elles ont entre 45 et 60 ans, c'est-à-dire sur la zone de périménopause, ménopause.
D'accord.
Et comme je l'ai dit, certains facteurs, comme du diabète, des maladies cardiovasculaires, peuvent favoriser ces pathologies. Ou encore, si vous avez une pathologie de l'épaule, comme une arthrose évoluée, elle peut évoluer vers une capsulite secondairement.
Et alors, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail tout à fait, mais pour répondre quand même à la question, c'est quoi ces injections qu'on peut proposer de corticoïdes, je crois, dans l'épaule?
Exactement, c'est le seul traitement qui peut un peu limiter la douleur. Néanmoins, aucun traitement n'a fait preuve de son efficacité. Le seul traitement, c'est la négligence contrôlée. C'est-à-dire que...
Ça veut dire quoi, ça?
On suit le patient, mais pas trop. On évite de trop lui proposer des traitements car on sait que très peu vont marcher et on risque de lui entraîner des effets secondaires. Donc, c'est de l'accompagner de la kinésithérapie. Mm-hmm. Pourquoi pas une infiltration
J'ai
ou
vu
deux,
de la balnéothérapie aussi parfois.
En traitement d'appoint pour traiter la douleur. Mais rien ne fera améliorer l'évolution ou en tout cas la récupération de cette épaule.
Merci beaucoup, Jimmy. Donc, beaucoup de patience, ça, on a compris. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Eric. On l'écoute.
J'ai entendu sur votre radio Europe 1 qu'il existait maintenant un bracelet contre les tremblements dits essentiels. J'aurais voulu demander au docteur Mohamed de me donner son point de vue. puisque j'ai un ami qui a 84 ans et qui souffre depuis de nombreuses années. Et je vous en remercie.
Alors Dimitri, effectivement, c'est Anissé Mbida qui en a parlé dans sa chronique Innovation dans la matinale d'Europe 1 il y a quelques jours. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu sa chronique, expliquez-nous de quoi il s'agit ce bracelet.
Alors c'est le bracelet Calatrio qui est capable d'empêcher les mouvements incontrôlés lorsqu'on a ce qu'on appelle un tremblement essentiel. Il vient d'être commercialisé. Ce tremblement essentiel, c'est quelque sorte une maladie héréditaire, une maladie génétique, qui font qu'on a des tremblements qui sont incontrôlés, répétés, et qui peuvent avoir un retentissement puisqu'on ne sera plus capable de se servir un verre d'eau, de manger seul, sans traitement.
Ah oui, quand même. Et ça touche beaucoup de gens, ce type de problème. Ça s'adresse à quel type de patients, ce bracelet ?
Tremblement essentiel, c'est 300 000 patients en France. Quand 30 000 ont un handicap sévère du fait du tremblement. C'est deux fois plus fréquent que la maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson, c'est un tremblement de repos. Tremblement essentiel, c'est un tremblement d'action lorsque vous mettez en mouvement des muscles.
Et ce bracelet fonctionne comment, du coup ?
Alors, c'est un bracelet qui va stimuler les nerfs au niveau du poignet, qui va envoyer un message au niveau du cerveau, qui va limiter le tremblement. Ça permet d'éviter de prendre certains traitements contre le tremblement essentiel qui ne marche pas ou qui marche avec des effets secondaires. Parfois, on a recours à la stimulation cérébrale où on peut détruire la partie du thalamus qui est responsable des tremblements. Donc, on peut éviter des effets secondaires avec un petit bracelet.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Eric qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un vaccin contre le paludisme. Et puis, on accueillera aussi notre invitée. C'est Hélène Vecchiali, elle est psychanalyste. Et avec elle, nous allons faire le point sur les pervers narcissiques. Qui sont-ils? Comment les identifier? Et surtout, comment sauver leurs victimes? A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, comme tous les jours. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée, la psychanalyste Hélène Vecchiali, avec qui nous allons vous parler des pervers narcissiques et de ce qu'on peut faire pour aider leurs victimes, bien sûr, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous allez nous parler d'un nouveau vaccin dont les résultats cliniques seraient plutôt encourageants dans la prévention du paludisme, et en particulier chez la femme enceinte. Juste avant ça, rappelez-nous quand même ce que c'est le paludisme.
Alors le paludisme, c'est une maladie qui est due à des parasites qui est transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles qui ont été infectées. C'est 220 millions de cas par an et 430 000 décès chaque année d'un paludisme dont on a la prévention avec le traitement et le traitement curateur lorsqu'on l'a.
Ouais, en Afrique notamment, ça fait de gros dégâts encore cette maladie. Pourquoi vouloir protéger particulièrement les femmes enceintes ?
Alors on sait que là où le paludisme est très fréquent, dans les régions endémiques, à force d'être piqué par ce moustique, on a une forme d'immunité relative qui empêche en principe de faire des formes graves du paludisme. Ça c'est vrai, sauf pour la femme enceinte. La femme enceinte qui fait un paludisme a une forme très particulière, plus sévère, car les globules rouges qui vont être infectés par le paludisme vont s'accumuler au niveau du placenta, et lorsqu'ils vont se mettre au niveau du placenta, ils vont être à l'origine d'anémie ou d'hypertension artérielle. À la suite de ça, on a un risque majoré de fausse couche, d'accouchement prématuré, de retard de croissance utérin, une mortalité infantile plus importante et des bébés qui ont un faible poids de naissance.
Oui, donc l'enjeu est très important.
En Afrique subsaharienne, c'est 11 millions de femmes enceintes qui ont été infectées par le paludisme l'année dernière et elles ont donné naissance à près de 900 000 enfants avec un très faible poids de naissance.
Et alors, quel est l'objectif de ce vaccin ?
Alors, c'est l'équipe de chercheurs de l'INSERM qui est menée par le directeur du CNRS, qui s'appelle Benoît Gamin, qui travaille depuis plus de 20 ans sur le développement de ce vaccin contre le paludisme. Celui-ci, il a pour objectif de réduire la mortalité de 10 000 par an et de 200 000 décès en moins chez les enfants.
Ah oui, quand même. Et les premiers résultats donc de ce vaccin sont encourageants.
Exactement. On appelait ce vaccin PrimeVac. Les résultats sont plutôt bons et ça montre que le vaccin est très bien toléré. Les seuls effets secondaires retrouvés, c'est simplement une petite douleur à l'injection lorsqu'on fait le vaccin. Effets secondaires qu'on retrouve dans bon nombre de vaccins. On sait qu'en plus que la capacité du vaccin à produire une réponse immunitaire, elle est avérée, avec 100% d'anticorps qui ont été produits après simplement deux injections. Donc pas besoin d'en faire nettement plus, on pourra en faire plus pour les protéger plus longtemps. On sait que ce vaccin permet de bloquer l'accumulation des globules rouges vers le placenta, qui est responsable des formes graves de paludisme chez la femme enceinte. À terme, on espère développer une réponse immunitaire plus longue parce qu'on s'est rendu compte que la vaccination marchait pendant un an et demi, deux ans maximum. Donc on espère développer une immunité plus long terme. Et dans cet essai, on a vacciné des femmes qui n'étaient pas enceintes.
Ah oui.
Donc on espère évoluer vers le traitement de la femme enceinte et voir si, lorsqu'elles tombent enceintes, est-ce qu'elles sont protégées.
Encore, bien
et peut-être
sûr.
Qu'on proposerait cette stratégie vaccinale dans le cadre de la vaccination contre l'HPV, le papillomavirus, dans des populations à risque, Pour l'instant, ce n'est pas le cas en France, mais on a besoin d'autres études pour qu'on aille un petit peu plus loin. Mais c'est déjà un immense progrès. Merci. Et un enjeu très encourageant.
Merci, c'est donc une piste très prometteuse. Merci Jimmy pour ces précisions. Et tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour. C'est Hélène Vecchiali, elle est psychanalyste et coach de haut dirigeant. Elle est aussi l'auteur de « Mettre les pervers, échec et maths » chez Marabout.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Hélène.
Bonjour Mélanie.
Alors pour commencer, on va quand même faire peut-être un petit point de définition. Pervers narcissique, dans pervers narcissique, il y a pervers et narcissique. Mais c'est quoi un pervers narcissique si on peut le définir ?
C'est une personne qui est malade, gravement malade. Et cette maladie est quasi incurable. Donc pour ces raisons, il faut poser le diagnostic avec beaucoup de précautions. Dans les structures psychologiques, c'est une personne qui se situe dans une zone qu'on appelle borderline. C'est un état limite. Limite entre la norme et la folie. Donc on comprend qu'ils sont vraiment dans une zone très fragile.
Est-ce qu'on a tort de penser que ce sont plutôt des hommes ou est-ce qu'effectivement c'est ce qu'on retrouve ?
Ce sont plutôt des hommes parce que ce sont des personnes qui naissent d'une femme et que ces mamans ont un comportement toxique avec leurs enfants.
Jimmy ?
Ce qui veut donc dire qu'on ne naît pas pervers narcissique, on le devient dans l'enfance ?
Oui, on le devient à la naissance, avec une maman qui est omnipotente, qui est incestuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à l'acte d'inceste, mais elle met une emprise sur son enfant qui est très grande.
Elle le porte au nu aussi, je crois.
Elle le porte au nu, mais surtout, elle se l'approprie comme un doudou, comme un objet antidépresseur pour elle. Et malheureusement, le père, lui, ne fait pas fonction de rempart contre la mainmise de cette femme. Il est complaisant sur le fait que cette femme prend son enfant comme un doudou, qu'elle le garde continuellement. Le père d'un pervers disait « Pendant qu'elle s'occupe de mon fils et puis qu'elle bouffe mon fils, elle me fout la paix. »
Ah, donc ils sont disqualifiés d'office en fait, ces voilà, pères. Hein, c'est voilà. Ça. Et la maman a le temps de fabriquer son pervers narcissique.
Voilà, c'est-à-dire un enfant qui devrait la consoler de tous les hommes de la planète qu'elle a pu croiser. Et donc le bébé grandit avec l'idée que toute relation affective est toxique et dangereuse pour lui. Et dans ces cas-là, la meilleure défense est l'attaque et c'est ce qu'il va faire.
Merci beaucoup Hélène Vecchiali. On ne fait que commencer cet entretien. Bien sûr, vous restez avec nous. Dans un instant, on continue à parler avec vous des personnalités narcissiques et de leurs techniques pour mettre leurs victimes sous emprise. Vous verrez d'ailleurs que les pervers narcissiques peuvent avoir plusieurs proies. On va tout vous expliquer. Mais d'abord un peu de musique. On écoute le duo Bonheur et leur titre Sauvage.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, la psychanalyste Hélène Vecchiali. Avec vous Hélène, aujourd'hui on fait le point sur les pervers narcissiques. Alors d'abord, on va essayer de les comprendre, parce que malgré tout, pour savoir qui ils sont, il faut essayer de les comprendre un petit peu. Est-ce qu'un pervers narcissique, c'est forcément quelqu'un de puissant socialement en général ? Ils vont faire quel genre de métier ?
Alors c'est quelqu'un qui est difficile à repérer en apparence parce qu'il est socialement très adapté, mais sa grosse problématique et surtout la problématique des victimes, c'est qu'il considère tous les autres comme des objets.
Tous ?
Oui, les gens autour de lui ne sont pas des êtres humains, ce sont des objets, et des objets à détruire moralement, à petit feu de préférence, pour pouvoir en jouir plus longtemps. Sauf que cette jouissance n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'il attend, par conséquent, c'est sans cesse à renouveler.
Mais comment on peut repérer, par exemple, au travail, je dis n'importe quoi, un collègue méchant, c'est pas, enfin, je veux dire, pas sympa, ou qui passe son temps à me débiner, à dire que je suis nulle, c'est pas forcément un pervers narcissique,
non,
comment
voilà.
J'identifie ouais.
Effectivement, il faut faire la différence entre un pervers narcissique et puis un manipulateur, un sadique, un méchant, un harceleur. La différence, c'est qu'il a une stratégie qui est très très bien rodée. Généralement, il a une proie de prédilection. Et là, il va appliquer une stratégie qui est absolument infernale. Il va ferrer sa proie avec une phase de séduction. Et puis ensuite, il va l'hypnotiser, la paralyser, la fasciner. Et donc, la victime est complètement sous emprise.
Jimmy ?
Et il peut en avoir plusieurs victimes ou il n'en choisit qu'une et c'est son doudou, sa poupée et puis,
Voilà, alors tous les humains autour de lui sont des victimes potentielles. Et quand il est dans une équipe, par exemple, ça ne va pas l'empêcher d'envoyer des scuds à l'un ou à l'autre. Mais il a souvent une victime de prédilection. Et cette victime, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est lui qui est le plus dépendant des deux. Parce que c'est un peu comme un vampire qui a besoin de sang.
C'est un vampire émotionnel, en fait, hein, c'est ça ?
Voilà. Alors, pas émotionnel, parce que lui, il n'a aucune émotion, aucun sentiment, aucun projet. Mais il a besoin de faire du mal à quelqu'un pour jouir de façon cruelle de cette souffrance-là. Et par conséquent, il a besoin d'avoir une victime de prédilection.
Souvent, c'est l'épouse, mais ça peut être aussi un frère ou une sœur.
Ça peut être l'épouse, un frère, une sœur. Ça peut être un collaborateur ou un collègue au travail. C'est vraiment peu importe. En revanche, la stratégie est toujours la même et bien rodée.
Vous disiez, ça commence par la séduction. Ça veut dire que ces pervers narcissiques, ils sont un peu des comédiens. Ils essayent de paraître extraordinaires. Comme ça, au départ, ils sont très séducteurs.
Oui, ils sont très séducteurs et ils paraissent brillants. Mais en fait, leur culture, par exemple, est monolithique. Moi, j'avais assisté à un dîner où j'avais repéré un pervers narcissique chez des amis. Et il a commencé à nous parler de Giovanni della Casa, un poète italien du XVIe. Et tout le monde avait trouvé ça particulièrement brillant. Et puis, il se trouve que 6 mois après, je me suis retrouvée dans un autre dîner avec lui. Heureusement, il y avait beaucoup de monde. Et il a reparlé de Giovanni della Casa, poète du XVIe. Voilà. Et j'ai appris par des amis qu'il nous bassinait tous avec ça. Donc, il paraît très brillant, mais en fait, c'est vide et c'est creux.
Jimmy ?
Le pervers narcissique aime aussi se faire passer pour une victime.
Alors, quand il a tout essayé, hein, quand il a essayé d'abîmer sa proie un maximum en l'isolant, hein, en l'isolant de sa famille, en l'isolant de ses amis, une fois qu'il a été dans la phase de lune de miel où il va tout lui promettre, où il va l'entourer de façon magnifique et que la proie va être ferrée, à partir de là, il va commencer à la disqualifier, à la désinformer, à la manipuler, à l'agresser verbalement. À la rendre vraiment le plus minable possible. Et si jamais cette victime commence à se rebeller un peu, et à ce moment-là, lui va avoir comme dernière stratégie de se victimiser.
C'est ça, c'est se faire passer pour une victime pour faire de la peine à l'autre et le garder encore sous emprise.
Voilà.
Et regarde comme je suis malheureux, et regarde le mal que tu me fais, et comme tu es ingrat, et c'est ça. Hein,
exactement.
Ou ingrate,
exactement.
Bien sûr. Et il est très jaloux, en fait, hein, de sa proie, c'est pour ça qu'il va l'isoler aussi. Hein.
Oui, c'est pas tellement parce qu'il est jaloux, c'est parce qu'une proie isolée est beaucoup plus facile à détruire qu'une proie qui va avoir des gens dans l'entourage et qui vont l'inciter à se méfier. Donc ça sera plus facile pour lui d'avoir une proie qui est seule et de fait la fascination, la paralysie, l'hypnose, tout ça va pouvoir continuer à jouer à bas bruit ou à bruit plus fort.
Jimmy ?
Et quel rapport ils ont avec l'argent ? S'ils sont dans la séduction, est-ce qu'ils offrent des cadeaux pour séduire ou au contraire ils sont très
ardents ? Alors dans la phase de séduction, tout est bon. Pour ferrer sa proie et pour l'hameçonner. Donc tout est bon. Et puis une fois que la proie est ferrée, à partir de là, effectivement, ils vont être plus radins. Ils sont très sensibles, bien sûr, à l'argent. Ils sont très sensibles à la loi, même si eux la bafouent volontiers. Mais ils sont vraiment sensibles à toutes les marques de reconnaissance, que sont les postes de pouvoir, l'argent.
Il faut qu'on leur soit redevable aussi, il y a ça. Hein.
Oui, ouais. Voilà. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont dieux.
Regarde, je te donne du travail, regarde, je te donne de l'argent, donc tu me dois tout, quoi. C'est ça, en fait.
Le côté narcissique, c'est vraiment quelqu'un qui est plein de certitude, d'invulnérabilité, de certitude de sa supériorité, et qui ont un culte du moi absolument démesuré. Et face à ça, il faut savoir que malgré tout, donc face à ce côté très brillant et Dieu vivant, ils sont d'une immaturité absolue. Ils sont dans un état de régression infantile totale. Ils veulent tout, tout de suite, tout le temps. Et ils supportent absolument aucune frustration.
Aucun
sinon,
échec.
Ça les met dans des rages narcissiques. Et aucun échec.
Quand il y a l'échec, ça devient encore plus pervers.
Oui,
hein, c'est ça, il devient encore plus pervers avec l'échec, le pervers narcissique.
C'est insupportable, tout à fait.
Et la victime, quand elle se sauve, c'est là où on voit aussi que c'est finalement quelqu'un d'assez vide et d'accro, qui a des problèmes d'addiction. Quand la victime, heureusement, s'échappe, là, elle s'effondre.
Oui, d'où le titre de mon livre, Mettre les pervers échec et mat. Il y avait un infirmier comme ça, un infirmier chef, qui avait une infirmière dans son équipe, et cette infirmière était sa proie, et donc il l'a malmenée, etc. Et puis pendant son travail en psychanalyse avec moi, elle a compris ce qui se passait, elle a pu mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX, et un jour elle est allée voir cet infirmier chef, et elle lui a dit, voilà, c'est terminé, plus jamais vous m'abîmerez, puisque j'ai repéré, vous êtes pervers narcissique, et c'est terminé. Et l'infirmier a démarré une crise d'asthme, pour la première de sa vie. 10 minutes après, le SAMU était là.
Hélène Vecchialli, on va continuer cette discussion dans quelques minutes. Bien sûr, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va continuer à démonter les stratagèmes des pervers narcissiques, mais on va surtout s'intéresser à leurs victimes. Elles ne sont pas des petites choses masochistes, contrairement à ce que l'on imagine au départ. Au contraire, si les pervers narcissiques les choisissent, c'est parce qu'elles sont justement de très belles personnes, des personnes solaires même. On en parle juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, c'est Hélène Vecchiali. Elle est psychanalyste et coach de haut dirigeant. Elle est également l'auteur de « Mettre les pervers, échec et maths » chez Marabout. Hélène, avec vous aujourd'hui, on fait un focus donc sur les pervers narcissiques. Mais à présent, on va parler quand même de leurs victimes. Et la première chose que vous dites, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, quand vous en rencontrez un, c'est il faut qu'elle comprenne, cette victime, que non, elle n'a pas été choisie parce qu'elle était quelqu'un de faible ou de fragile. C'est tout le contraire, en fait.
Oui, effectivement. Comme vous le disiez tout à l'heure, hein, ce ne sont pas du tout des masochistes. On peut comprendre d'ailleurs que le pervers n'aurait aucune jouissance à éteindre des cendres. En revanche, éteindre un soleil, là, le challenge est un beau challenge à relever. Ce sont des victimes qui ont des fortes valeurs morales et humaines. Vous le disiez aussi, elles sont solaires, elles ont une propension au bonheur, elles sont chaleureuses, spontanées, aimables, maternantes. D'ailleurs, ce point-là qui va un peu les desservir. En un mot, elles sont vivantes. Donc, le pervers, si on reprend la métaphore du vampire, préfère avoir un sang champagnisé qu'un sang putride.
Et c'est justement toutes ces qualités dont lui manque cruellement, qui l'attirent,
oui,
en fait.
Voilà, hein, ça l'attire parce que ça va lui permettre de l'éteindre, de les éteindre. Et puis ça l'attire aussi parce qu'il aimerait bien absorber toutes ses qualités, déverser toutes ses angoisses et ses détresses et absorber ses belles qualités.
Jimmy ?
Comment on fait pour aider les victimes de pervers narcissiques qui nous écoutent et qui ne réalisent pas qu'elles sont sous l'emprise justement d'un pervers ? Et est-ce que vous avez des techniques ou des contre-techniques justement pour éviter cette emprise ou en tout cas d'en sortir ?
Alors c'est très très compliqué parce que les victimes sont isolées et qu'elles sont dans un état de défaillance identitaire, de manque de confiance en elles, qu'en plus elles sont très loyales, donc elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que le pervers est malade et elles vont vouloir le sauver. C'est le côté maternant et
il faut que je l'aide, il faut que je le soutienne.
Donc, en plus, elles sont isolées, donc personne autour d'elles pour leur donner des explications et les mettre en garde. Donc, et puis, le pervers, dès qu'il voit qu'elles s'échappent, va reproposer une lune de miel, va recommencer à les rendre plus malléables. Donc, c'est compliqué. Il faut savoir qu'il y a quand même un pourcentage énorme de suicides parce qu'elles sont seules et elles déclinent à grande vitesse. Alors, quoi faire pour les aider ? Bien, c'est le point, c'est le corps qui va être le point d'alerte principal parce que bien souvent, ces victimes ont plein de maladies, soit elles deviennent anorexiques, soit au contraire boulimiques, des arythmies, de l'eczéma, du psoriasis, des douleurs intestinales, des maux de tête, des manques de sommeil, enfin tout ce qui peut être les conséquences d'un stress énorme et de douleurs morales intenses. Donc c'est le médecin qui pourrait à ce moment-là dire il y a quelque chose qui ne va pas, parlez-moi un peu et pouvoir mettre le mot pervers sur ce compagnon.
C'est donc souvent le corps hein, qui lâche en premier. Oui. Alors justement, hein, si vous aussi vous avez été victime d'un pervers narcissique, vous pouvez, si vous le souhaitez, témoigner dans la libre antenne d'Olivier Delacroix à retrouver tous les soirs de 22h30 à 1h, à 1h du matin bien sûr. Hélène, ces victimes du coup, comment elles font pour, une fois qu'elles ont c'est quoi, c'est un déclic qu'il faut avoir ? Il y a un déclic à un moment donné,
oui.
Mais ce déclic il vient forcément de l'extérieur, c'est un proche ou...
C'est le médecin traitant. Et puis, il peut y avoir aussi... Donc déjà, là, elles vont se rendre compte de choses. Et souvent, lorsque le médecin traitant va les aider à y voir plus clair, elles vont renouer avec un parent, elles vont renouer avec une amie. Donc ça va être aidant. Et puis, il peut y avoir un facteur déclenchant.
Hein, ça peut être quoi ?
Ben, ça peut être, par exemple, je pense à une femme... Qui était veuve et qui avait un compagnon, elle avait un petit garçon de 3 ans et un compagnon qui était vraiment odieux et qui avait profité de cette faiblesse du veuvage pour la phagocyter. Et un jour, son petit garçon lui a dit « Maman, je veux que tu sois triste pas ». Et elle dit, c'est ce jour-là, Ça a été un facteur déclenchant et voilà, j'ai réussi à partir.
Jimmy ?
Comment est-ce qu'on fait la différence entre un pervers narcissique et quelqu'un qui serait juste méchant, qui aurait tendance à nous rabaisser, et à se moquer de nous ?
Celui qui est méchant et qui rabaisse quelqu'un, il a un objectif, c'est un moyen pour lui d'obtenir quelque chose, d'obtenir votre place ou d'obtenir le dossier qu'on vous a confié ou de draguer votre femme ou de
vous isoler.
Il a un intérêt. Il a le fait d'être méchant, c'est un moyen pour obtenir quelque chose. Le pervers, lui, être méchant, c'est son but. C'est pas un moyen pour quoi que ce soit d'autre, c'est son but. Son but, c'est d'être méchant, son but, c'est de faire mal, son but, c'est de détruire.
De vous
voilà
éteindre,
la différence.
De,
voilà.
De vous rendre,
la différence, elle est là. C'est que
de vous laisser comme un tas de cendres.
Voilà.
Quoi,
il n'a pas d'autre objectif que de tuer psychologiquement sa victime.
Et une fois que la victime a eu ce déclic, s'est échappée, on l'espère, et ça arrive souvent, heureusement, cette victime, elle va mettre du temps à se reconstruire. C'est plus difficile de s'échapper ou de se reconstruire, d'ailleurs ?
Ben c'est d'abord plus difficile de s'échapper parce que la victime, elle est la métaphore de la grenouille est assez parlante pour ça. Si vous prenez une grenouille dans une mare, dans une casserole et que vous montez le feu tout doucement, la grenouille va mourir. En revanche, si vous mettez une casserole d'eau bouillante et que vous jetez une grenouille dedans, la grenouille sort. Mmh. Donc là, c'est exactement pareil. C'est à petit feu, elle va être éteinte et toutes ses facultés vont tout doucement s'estomper et s'amenuire et elle va plus avoir assez d'énergie physiquement, moralement, psychologiquement pour se sortir de là. Mmh. Mais une fois qu'elle est sortie, effectivement, se reconstruire est compliqué, mais il faut impérativement qu'elle comprenne ce qu'elle faisait là. C'est-à-dire qu'une fois que les victimes ont compris qu'elles n'étaient pas là par hasard, qu'elles n'étaient pas choisies par hasard, mais qu'il y avait en elles des bonnes choses et une fragilité qui a permis l'entrée du pervers, à ce moment-là, elles vont pouvoir se reconstruire en sachant que ça leur est pas tombé dessus par hasard, qu'elles ont une part de responsabilité et que par conséquent, en travaillant là-dessus, plus jamais ça ne se reproduira.
Jimmy ?
On a l'impression que la seule issue pour sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est la fuite. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, vous avez parlé de maladie mentale, est-ce qu'on ne pourrait pas soigner ces pervers pour protéger la victime et puis les autres si jamais elle s'enfuit.
Oui, comme d'autres maladies mentales.
Ça serait une excellente idée. Effectivement, la solution, c'est la fuite. Ça ne se transforme.
Jimmy, le docteur, alors il veut soigner. Hein.
Oui, mais il a raison. C'est se transformer en anguille ou en savonnette ou en anguille savonneuse. En revanche, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça ne se guérit pas.
C'est incurable.
Et surtout, il faudrait que le pervers demande.
Et ne demande jamais.
On ne peut soigner quelqu'un. Ben non, Dieu demande pas.
Demande
rien.
Ouais, c'est ça.
Dieu est parfait, donc Dieu demande rien. Et si par hasard, comme c'est le cas quand ils sont en prison, on leur impose un thérapeute, son seul objectif, ça va être de phagocyter le thérapeute.
Donc
j'ai
pas.
Une mauvaise nouvelle, c'est vraiment
compliqué.
C'est
pas forcément des gens violents, parce que vous aviez...
Non, ils sont pas violents, ils sont violents psychologiquement. Mmh. Non, au contraire, ils ont l'art de laisser aucune trace. C'est pour ça que c'est compliqué de les prendre la main dans le sac, parce qu'ils tapent pas, et c'est juste un meurtre psychologique. C'est le crime parfait.
Un meurtre psychologique. Alors justement, une fois que la victime a quitté son bourreau, je crois qu'il va falloir faire très attention, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, à ne pas rechuter, parce que dans les premiers temps qui suivent cette fuite, là, le bourreau va mettre le paquet, hein, on est d'accord ?
Mais il va se victimiser et essayer de l'attendrir.
Je vais me suicider ou des choses comme ça.
Alors je vais me suicider, ça c'est vraiment le classique. Et puis une patiente me racontait que elle avait des appels, elle avait réussi à le mettre dehors puisqu'elle était chez elle, elle avait réussi à le faire partir et elle avait des appels toute la nuit, deux fois, trois fois, quatre fois elle n'en pouvait plus et un jour je lui dis mais si suicide, à qui il va manquer ?
Ben oui.
Et donc le lendemain elle arrive, elle était très angoissée parce qu'il l'avait appelée en disant je vais me suicider et elle avait répondu bah vas-y fais-le et elle avait raccroché.
Et là vous êtes très rassurante entre guillemets, c'est que le pervers narcissique il se suicide
on est d'accord. Non, il cherche une autre proie. Donc elle avait plus entendu parler de lui pendant un moment, elle était inquiète et finalement la sœur de ce pervers l'avait appelée. Elle avait appelé la sœur du pervers parce qu'elle était un petit peu inquiète et puis elle avait appris qu'il allait bien, qu'il avait quand même passé trois jours enfermé chez lui en étant dans un état catastrophique, qu'il avait appelé sa sœur Et sa sœur lui avait dit oui, mais elle a raison.
Mais il ne faut pas craquer à ce moment-là quand on est parti, effectivement, parce que vous dites, on ne peut pas négocier avec un terroriste. C'est ça.
Non.
Ce sont des terroristes.
Hein, oui, c'est un terroriste. Voilà. Ouais. C'est exactement ce que disent les gouvernements. On ne négocie pas avec les terroristes.
Et là, ça les rend encore plus dangereux de se faire lâcher, hein, je crois, c'est ça.
Ben, ça les rend dangereux, mais ils s'effondrent. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est comme tout d'un coup le toxicomane qui n'a plus de drogue.
C'est un sevrage brutal.
Ah oui, c'est un sevrage brutal. Il s'effondre. Et puis, il s'effondre deux secondes, une minute, un jour. Et après, il retrouve une autre proie.
Jimmy ?
Et puis, une fois qu'on est sorti de l'emprise du pervers narcissique, on est souvent seul, parce que vous dites qu'il isole socialement les gens, et ça doit être compliqué pour la reconstruction ensuite. Comment on fait ?
Eh bien, généralement, les victimes, comme c'était des belles personnes, elles avaient des vrais amis, elles avaient une famille qui les aimait, hein, c'était pas des perverses, donc elles étaient assez entourées. Et quand elles ressonnent aux portes, les gens ouvrent. Et puis, il y a des thérapeutes. Et puis, ça peut être des livres.
Il ne faut pas hésiter à aller sonner à la porte,
voilà,
justement.
Il faut vraiment se faire aider. Et surtout comprendre ce qu'on fait là. On se rend compte que très souvent, dans la vie des victimes, il y a eu, dans l'environnement familial des enfants, il y a eu des gens sadiques ou pervers, très souvent des pervers. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui leur est familier. C'est pour ça qu'elles ne se sont pas méfiées.
Et là, vous allez travailler ensuite avec ces personnes-là sur l'estime de soi, c'est ça, hein, le début de la reconstruction ?
Le début de la reconstruction, c'est vraiment ça, c'est vraiment comprendre ce qu'on faisait là-dedans. Et puis, une grosse étape, c'est se pardonner. Se pardonner ce qui a
à
pu
soi.
Se passer, se pardonner à soi-même.
Parce que pardonner à lui, ce n'est pas nécessaire, je crois que vous dites.
Mais le pardonner à lui, on s'en fout, d'abord, il ne le demande pas. Et puis ensuite, ça dépend des gens. Si une fois que la victime est guérie, elle a envie de pardonner, elle peut, mais si pardonner, c'est répondre à une demande de repentir, ça ne se produira jamais. Jamais le pervers va dire « je suis désolé ».
Et vous, exigez, pour vous, je crois que vous dites que exiger que la victime pardonne, c'est encore plus pervers de leur demander ça.
Mais je trouve que c'est assez pervers, et il faut savoir que dans les 10 dernières décennies, il y a eu 200 livres ces 10 dernières années sur « il faut pardonner ». Avec des phrases assassines comme « une personne qui ne pardonne pas sera plus jamais heureuse ».
Et c'est faux selon vous ?
Bien sûr.
Elle n'est pas obligée de pardonner.
Elle fait comme elle veut. Guylaine, qui a eu sa fille malheureusement tuée par Guy Georges, a dit « je lui fais cadeau de mon indifférence ». Voilà, et je trouve ça bien. Maintenant, après, s'ils sont des gens croyants, pratiquants, et pour qui le pardon est important, il faut le faire. Mais en sachant qu'ils le font de leur propre chef, sans répondre à quoi que ce soit du pervers.
Alors heureusement, beaucoup de personnes, de femmes surtout, qui ont été victimes de pervers narcissiques, s'en sortent. On en parle de plus en plus. Et je crois que c'est l'objet de votre dernier livre, Le silence des femmes, chez Albin Michel. Sur ces sujets, et d'autres d'ailleurs, la parole se libère enfin.
Oui, j'ai souhaité dans mon livre Le silence des femmes, questionner la raison des 40 ans de silence, 20 ans de silence, 30 ans de silence, 10 ans de silence de toutes ces personnes dont on entend parler. Hein, c'est un sujet brûlant d'actualité. Adèle Haenel, Vanessa Springora, les scouts du père Prena, de l'ex-père Prena, et comme je parle beaucoup surtout des femmes, par exemple les actrices victimes de Weinstein. Mmh. Pourquoi il y a eu tant d'années de silence ? La sidération post-traumatique n'explique pas tout. Il y a de multiples raisons, et si on explique toutes ces raisons, si on parle aussi de solutions pour tous ces gens-là, eh bien ça permet d'avoir un message qui est à la fois curatif et préventif pour les femmes comme pour les hommes.
On viendra nous en reparler dans cette émission. Voilà,
merci.
C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup Hélène Vecchiali d'être venue sur notre plateau nous éclairer sur les pervers narcissiques.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les mots du quotidien ». Et aujourd'hui, on s'est intéressé à une maladie dont on parle peu, le cancer de l'œil. L'Institut Curie met l'accent ces derniers jours sur cette pathologie. 600 nouveaux cas chaque année et un diagnostic souvent trop tardif. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle du cancer de l'œil. Savez-vous de quoi il s'agit précisément ? Est-ce vraiment fréquent ? Comment le dépister ? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur ce sujet. Peu connu, on écoute son micro-trottoir.
Un cancer de l'œil, oui, bien sûr, ça existe.
J'en ai jamais vu, jamais entendu parler dans mon entourage, donc je pourrais pas dire quelle forme ça a, mais
il y a des signes qui se manifestent, des points noirs dans la vue, des parties floutées.
Bon, la personne qui avait ça au début, on voyait rien du tout.
Il faut du temps avant qu'on se rende compte qu'on a du mal à voir ou on loupe un peu les angles aussi.
J'ai connu une personne qui avait ça, donc non, ça se voyait pas du tout.
Pollution, ça peut être trop de travail sur l'écran qui en fait fatigue l'œil.
De la fumée au quotidien.
C'est quand même très grave et qu'on peut en mourir. Hein. On peut avoir le cancer généralisé après. Hein.
Bon, Jimmy, ce cancer de l'œil, c'est quoi précisément comme maladie ?
Alors, c'est un cancer qui est assez rare, le mélanome de l'UV. C'est la tumeur oculaire qui est la plus fréquente chez l'adulte. C'est 500 à 600 nouveaux cas chaque année. Son incidence, elle est plutôt faible, car le cancer de l'œil, ça reste quelque chose qui est très mal connu du grand public, mais aussi pour les professionnels de santé. Le problème, c'est que ce cancer est souvent diagnostiqué à un stade tardif, où le pronostic est déjà engagé, et à ce moment-là, on n'a pas grand-chose à proposer, si ce n'est une ablation de l'œil sans aucun traitement conservateur en contrepartie.
D'accord, et le problème avec ce type de tumeur, c'est qu'elles mettent beaucoup de temps à se développer avant que les premiers symptômes n'apparaissent, d'où la difficulté de diagnostic dont vous parlez. Et pour savoir quels sont les signes justement qui doivent alerter, on a posé la question au professeur Nathalie Cassou, chef du département d'oncologie chirurgicale à l'Institut Curie. On l'écoute.
Les premiers symptômes, c'est en général des flashs lumineux et persistants. Lorsque la tumeur se développe en périphérie de la rétine, il n'y a que ce symptôme. C'est un éclair blanc, toujours au même endroit, c'est-à-dire peut-être en haut ou en bas, ça dépend où se trouve la tumeur, qui peut être intermittent, mais qui survient à tout moment de la journée. Chez les enfants, la tumeur la plus fréquente, c'est le rétinoblastome. Et ça, il y a deux signes cliniques qui sont extrêmement importants, que les parents doivent connaître. C'est la leucocorie, c'est-à-dire le reflet blanc dans la pupille, qui peut être visible de façon intermittente au début, qu'on peut voir seulement sur des photos au smartphone. Et l'autre signe, c'est un enfant qui porte un strabisme unilatéral, c'est-à-dire c'est toujours le même œil qui est en déviation. Ça aussi, ça doit alerter les parents et faire un fond d'œil par un ophtalmologiste en urgence.
Voilà pour les signes qui doivent alerter et faire consulter. Jimmy, en urgence, donc c'est l'ophtalmo, hein, le premier recours, on va dire.
Oui, exactement. Comme le professeur Cassou l'a dit, il faut simplement faire un examen de fond d'œil de façon très tôt pour améliorer le pronostic. Alors c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. L'accès aux soins est un peu inégalitaire en France. Avoir un ophtalmo, ça peut être très compliqué.
Facile.
Donc
pour on le l'appelle coup, en disant qu'on a ces signes-là et que c'est quand même une urgence.
Exactement.
Peut-être
surtout qu'elle a donné deux signes cliniques très simples dont il faut se rappeler.
Merci. Alors rassurez-nous quand même à présent, si on arrive à faire ce diagnostic tôt, il y a un traitement, je crois, un en particulier qui est très efficace quand même.
Alors oui, mais ça dépend effectivement de la tumeur et de sa localisation. L'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle la protonthérapie.
C'est quoi ça ?
Le problème, c'est que déjà d'avoir cette technique, c'est assez compliqué puisqu'il y a un accès inégal. Il y a très peu de centres qui le font.
Il y en a
21
deux, hein.
Centres. Alors c'est une radiothérapie qui est ultra précise, qui permet de conserver l'œil et la vue dans plus de 90% des petites tumeurs qui sont situées à plus de 3 mm. De la macula ou du nerf optique. C'est une radiothérapie qui utilise des protons très précis qui permettent de traiter efficacement la tumeur en essayant de préserver les organes nobles autour.
Et Jimmy, on faut faire combien de séances de protonthérapie ?
4 séances consécutives, ce qui permet de limiter notamment le risque de récidive, surtout dans les tumeurs agressives.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour les meilleurs moments de Catherine Blanc, notre sexologue, aujourd'hui avec elle. Il sera question d'éducation sexuelle, mais d'abord, on écoute de la musique avec le titre « I Say a Little Prayer » d'Aretha Franklin.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à vous deux.
Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'éducation sexuelle pour répondre à la question qu'on a reçue de Sophie, 44 ans, je vous la lis. Bonjour Catherine, qui des parents doit répondre aux questions sexuelles des enfants ? Je dis à mon mari que c'est à lui de parler à nos garçons de 11 et 14 ans, que ce serait malsain que ce soit moi. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, concrètement, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sophie ? Moi, je ne vois pas pourquoi ça serait malsain, en fait, qu'elle s'en occupe, non ?
Mais déjà, ça, c'est la première réflexion que je trouve intéressante. C'est penser qu'une maman qui parle à ses garçons de sexualité, c'est comme si elle faisait l'amour avec ses garçons. Il n'y a rien de malsain à ça. Parler de sexualité à ses enfants n'est pas problématique. Ce qui est malsain, c'est de venir heurter nos enfants dans un sujet qui ne les concerne pas, qui n'arrive pas en leur temps. Donc, la question de savoir quel est le parent qui doit en parler, c'est celui qui est le plus tranquille,
le plus à l'aise avec ça.
Plus à l'aise avec ça, c'est celui qui est sollicité par les enfants, c'est celui qui sent que les enfants sont plus en sécurité pour en parler parce que avec papa, il faut être aussi fort que papa, donc c'est plus compliqué. Mmh. Ou avec maman, elle est toujours dans les trucs, les bobos, etc. On préfère un truc plus léger.
Pareil avec les filles, c'est pas que les mamans, les papas aussi peuvent s'en mêler.
Exactement, dans la mesure, encore une fois, où on respecte les attitudes parfois réfractaires de l'enfant qui veut savoir sans savoir, qui pose des questions sans écouter la totalité des réponses. Et c'est c'est là tout l'art du parent. C'est de ne pas arriver avec son projet, mais écouter le besoin de l'enfant.
Jimmy ?
Bon, on peut parler donc d'éducation sexuelle à la maison, mais jusqu'où on doit aller ? Parce qu'on n'est pas tous aussi à l'aise et les enfants ne sont pas tous égaux, n'ont pas forcément les mêmes questions. Où se trouve la limite ?
Alors déjà, avant de parler de la limite, c'est de savoir ce qu'il ne faut pas mélanger dans éducation sexuelle. Toute la difficulté, pourquoi nous ne sommes pas à l'aise, c'est que nous ne sommes pas des profs de sexualité et d'éducation sexuelle. Donc nous sommes des humains avec notre propre sexualité, et du coup avec nos propres inhibitions, ou avec nos propres délices, ou nos propres intérêts. Et finalement, ça ne concerne nullement notre enfant. Et c'est ça la difficulté, c'est de ne pas parler de ses peurs, parce que moi j'ai eu des choses dramatiques, ou de ses plaisirs, parce que moi j'ai adoré ça.
Le mieux
ça.
C'est pas parler de soi, c'est un enfant, de sa propre sexualité.
C'est ça,
hein,
mais c'est la plus grande difficulté. Mmh. Parce qu'en général, on a toujours une référence, eh oui. Puisqu'on n'a pas écouté un cours.
On n'a qu'à parler des grands-parents alors, non.
Non, mais voilà, c'est de poser la question de qu'est-ce que l'enfant veut savoir, hein. Quand ils sont tout petits, ils veulent savoir comment on fait des bébés, c'est-à-dire comment on fait l'amour.
On répond quoi alors d'ailleurs à ça? Parce que ça c'est quand même la question fondamentale, là, qu'à un moment donné, un enfant va forcément vous poser la question. Enfin, souvent, en tout cas, on répond quoi à un enfant de 8 ans qui demande comment on fait les bébés ?
Alors, déjà, les enfants souvent posent la question pour voir la gêne que ça provoque chez vous.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en général, ils choisissent exactement le moment le moins opportun. C'est-à-dire, vous êtes à moitié au téléphone, vous êtes en train de faire la vaisselle, il y a quelqu'un qui... Et à ce moment-là, ils posent la question pour voir si vous vous empourprez, pour voir si... Oh vous, tout d'un coup, vous en perdez votre respiration normale. Et puis déjà, ça leur plaît, parce qu'ils savent que c'est un sujet. Mmh. Et quand vous commencez à dire, bon, alors, comme l'histoire de la bouteille de lait, eh bien, à ce moment-là, ils vous regardent un peu parfois goguenard ou méprisant, parce que franchement, vous ne vous débrouillez pas très bien, parce qu'ils ont déjà,
en fait, ils savent déjà
une
tout.
Partie d'information. Et puis, quand vous commencez à rentrer vraiment dans le vif du sujet...
Et je lui dis quoi, alors, concrètement, dans le vif du sujet ? Moi, j'aimerais bien avoir des conseils là-dessus.
Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, il y a toutes ces histoires, les bébés, on les fait, les garçons dans les choux, les filles dans les roses, ou c'est la cigogne, etc. Alors, on rit, évidemment, parce que c'est n'importe quoi, et si on dit des choses comme ça à l'enfant, il sait très bien que c'est n'importe quoi. Mmh. Mais ça veut dire des choses symboliques, puisque la cigogne, c'est le bec de la cigogne dans la cheminée. Tout ce qui est de l'ordre du jardinage, c'est aussi la petite graine qui va faire pousser les plantes, les fruits, les légumes, etc. Donc ça raconte bien de ce dont il s'agit. Donc on peut raconter ça si on a envie de le faire d'une façon imagée, mais après on dit, eh bien c'est la même chose entre un papa et une maman, c'est-à-dire que le papa va pouvoir donner à la maman, dans le sexe de la maman, l'enfant à 8 ans, c'est très bien, déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, il est tout à fait au fait de sa sexualité, de fait d'être garçon-fille et de fait que les parents ont un sexe.
Jimmy ?
Bon, moi je ne suis pas très à l'aise avec tout ça, hein, mais du coup, si moi je ne suis pas à l'aise et que j'ai du mal à dire ces mots, est-ce que je peux m'aider de support ? Est-ce qu'il y a des livres ? Ou au contraire, c'est peut-être encore plus bizarre avec des livres qu'avec les mots du papa ou de la maman ?
Voilà, on peut très bien dire, tu sais, moi j'ai les mots d'un papa et d'une maman, mais essayons de voir ensemble avec les mots tes mots à toi, et il y a effectivement des tas de bandes dessinées bien faites, pas pudibondes, ni trash, qui délicatement racontent en passant par la végétation, les animaux, et puis les humains, comment effectivement se fait la sexualité. Et de façon tout à fait imagée. Encore une fois, les enfants ont une grande capacité à comprendre au travers de l'image l'écho du réel.
Merci beaucoup Catherine, on vous retrouve bien sûr demain, dans son rendez-vous, on va tout vous dire sur la migraine. D'ailleurs, il en existe plusieurs formes différentes, on fera le point. Mais d'abord, je cède la place à l'équipée sauvage de Mathieu Noël. Je crois que vous êtes particulièrement chaud bouillant aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, et bien restez avec nous puisqu'on continue de parler sexe dans l'équipée sauvage aujourd'hui, spéciale sexualité avec Maya Mazorette, une journaliste experte en la matière, une véritable sexperte qui va répondre à toutes les questions qu'on se pose et que vous posez surtout, car ouais. Je vous connais bien Mélanie.
Merci Mathieu, un programme très chaud, donc j'avais raison. Ça promet, on sera bien sûr à l'écoute. Et vous, je vous le conseille, restez sur Europe 1.